CFM spéciale élection.
Oh là là, je sais pas du tout politique, monsieur. Je m'excuse.
Alors là, pas du tout.
Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections.
Après, le reste de la politique, je connais rien.
Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages.
Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne.
Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace.
À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM.
Eh bien, nous sommes dans le cadre du deuxième tour de l'élection législative, puisque CFM, depuis 18 ans en Tarn-et-Garonne et en Aveyron, 7 ans en Aveyron, convie chaque mois tous les représentants de tous les représentants locaux de tous les partis politiques nationaux à débattre à table ovale sans ellipse. Ça se passe un mois à Villefranche, un mois à Rodez. Et pour les élections, ça fait donc 18 ans que CFM, au premier tour, convie les candidats des cantonales, des municipales, des législatives, à suivre une interview qui, pour les législatives cette année, était de 15 minutes, puis, au deuxième tour, à débattre entre les deux subsistants, un débat qui regarde les deux concurrents. Je considère, et nous considérons à CFM, que les auditeurs sont intelligents, qu'ils ont deux oreilles pour entendre directement ce que leur disent les partis politiques, avec quelque chose entre les deux pour le comprendre, sans avoir besoin de mes explications et de mes analyses. En suivant. Voilà, on est notamment en Aveyron, je pense qu'on a effectivement des auditeurs qui peuvent comprendre directement ce que leur disent les candidats. Donc nous sommes sur la première circonscription de l'Aveyron, donc les deux candidats subsistants sont Monique Bultel-Hermand et Yves Sancy. Monique Bultel-Hermand pour le Parti Socialiste, Yves Sancy pour l'Union pour un mouvement populaire. Et qui vont donc débattre le premier thème sur lequel nous sommes tombés d'accord, puisque Madame Bultel-Hermand, dans son document de premier tour, a abondamment parlé du bilan de Monsieur Sancy, qui est le député sortant. Eh bien, la première question, c'est déjà d'évoquer ce bilan, puisque là, ils sont l'un en face de l'autre, ils vont pouvoir s'en parler, Monsieur Sancy.
Merci, bonjour d'abord, et puis pour vous dire que je me réjouis que nous ayons enfin ce débat en face à face. Alors je crois qu'il me revient, après tirage au sort, de parler du bilan et de mon bilan, puisque madame...
Il y aura un échange, hein.
Il y aura un échange, je l'espère. Puisque madame Bultel l'a abondamment commenté. Très simplement, moi je me suis engagé non seulement en 2002, mais en 2007, à assumer l'ensemble des missions qui sont celles du député. Elles se passent d'une part à l'Assemblée nationale pour la législation. J'ai eu l'occasion de le dire, ça a été un engagement important de ma part. J'ai passé, on va dire, 4 jours par semaine à l'Assemblée nationale comme vice-président de la Commission des Finances et vice-président du groupe UMP. C'est un engagement qui m'a permis d'avoir un certain nombre de leviers pour légiférer au profit des Aveyronaises et des Aveyronais. Ça a toujours été mon objectif. J'ai fait passer sur ce plan-là cette année, sur cette législature, plus de 200 actes législatifs, je pense, dont certains sont pas forcément très connus. Je pense aux exonérations des charges sur les organismes d'intérêt généraux, ce sont les ADMR. Ce sont les familles rurales, ce sont les maisons de retraite. Ça représente pour chacune d'entre elles peut-être 160 000 euros, entre 120 et 160 000 euros d'exonération. Ça se sait pas trop. C'est moi qui ai fait passer cette mesure pour exonérer de paiement de la taxe audiovisuelle les personnes de plus de 65 ans qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu, etc. Donc c'est toujours à l'écoute de mes concitoyens que je l'ai fait. Je suis heureux d'avoir été classé premier député de Midi-Pyrénées, 25e sur 577 au plan national. Je le dis, pardonnez-moi, ça paraît orgueilleux, mais c'est le moment de le rappeler, puisque j'ai été sujet à des agressions très personnelles de la part de Madame Bultel et de Christian Tessèvre récemment. Deuxièmement, l'engagement sur le terrain. Ce sont plusieurs centaines de projets que j'ai pu soutenir autour d'une structure d'action que j'ai toujours défendue. C'est non seulement d'être auprès de mes concitoyens, j'en ai reçu sur chaque législature entre 5 et 8 000 pour solutionner des problèmes personnels, des familles, et deuxièmement, des actions sur les projets associatifs. des projets de communes, des constructions de mairies, des constructions de maisons des associations, d'écoles. On pourrait citer des exemples de d'Espalion avec des soutiens aux multi-accueils petite enfance. Ils sont trop nombreux pour pouvoir les citer, mais je suis prêt à les évoquer avec mon adversaire.
Madame Hultelherman.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite que ce débat soit effectivement riche en explications. Vous comprendrez aisément que je ne partage pas l'optimisme du député sortant, M. Sancy. Le bilan du député sortant est mauvais. Et c'est aussi pour cela, je pense, que les Aveyronnaises et les Aveyronnais, aujourd'hui, veulent changer de député. Pendant cette campagne électorale, j'ai rencontré des centaines de gens. De l'Aïole à l'Essac, du monastère à Marcillac, en passant par Rodez, bien évidemment. La ville où j'habite et où j'exerce depuis 25 ans la fonction de chef d'entreprise. Lorsqu'ils m'ont parlé de M. Sancy, c'était pour me dire qu'ils ne l'avaient pas beaucoup vu en 10 ans. Force est de constater que depuis 10 ans, M. Sancy, vous n'avez pas fait grand-chose pour l'Aveyron. Vous n'avez amené aucune entreprise, aucun investisseur. Vous n'avez porté aucun projet. Bref, vous n'avez pas honoré la confiance de ceux qui avaient voté pour vous. Et c'est pour cela que je pense que vous ne méritez pas d'être député pendant 5 ans de plus. Les Aveyronnais, d'ailleurs, n'ont jamais reçu le moindre bilan de votre action, le moindre compte-rendu de mandat. C'est sans doute pour cela qu'ils sont ignorants.
Sans couper votre déclaration, Madame Bultel, je veux bien vous communiquer et mon journal de campagne. Et je vous conseille de communiquer avec les centaines d'associations et les milliers de personnes dont je parlais tout à l'heure. Soyons concrets quand même, s'il vous plaît.
Ce constat de carence, je dirais, tous les candidats du premier tour l'ont fait. Et ils ont été entendus par les électeurs. Permettez-moi de reprendre une phrase de Stéphane Mazard, candidat du premier tour pour le Parti radical de gauche. Sancy est invisible depuis 10 ans. Sauf en période électorale. Il est resté à Paris, prisonnier de l'appareil UMP et détaché des réalités des Aveyronnais. Stéphane Mazard, qui, je vous le rappelle, a fait appel clair, sans faille et sans condition, à voter en ma faveur. La situation actuelle de l'Aveyron doit mobiliser toutes les énergies. C'est ce que je ferai pour profiter du changement et pour redresser l'économie de notre pays. Le 6 mai, les Françaises et les Français, les Aveyronnaises et les Aveyronnais, ont choisi un nouveau président de la République. Ce qui pose une vraie question, M. Sancy, à laquelle il faudra répondre. Ce que M. Sancy n'a pas fait pendant 5 ans, avec un gouvernement de droite, avec tous vos amis au gouvernement, pourquoi le feriez-vous sous un gouvernement de gauche, alors que vous ne connaissez personne au nouveau gouvernement, et que surtout vous serez coupé de tous les leviers dont vous pensiez pouvoir vous targuer à l'instant même? Personnellement, j'ai pour dimanche le soutien du président de la République François Hollande, le soutien du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le soutien du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg notamment. J'irai d'ailleurs très rapidement le rencontrer avec une délégation de chefs d'entreprise aveyronnais. Après 10 ans de dilettantisme, il est temps de se mettre au travail. Je m'y mettrai avec passion et avec l'énergie qu'on me connaît dès lundi matin. Je veux rappeler quelques chiffres, quelques données qui illustrent, M. Sancy, votre bilan. Vous avez voté personnellement 80 000 postes supprimés dans l'éducation nationale, la suppression des tribunaux de commerce d'instance d'Espalion, de Villefranche, de Millau, le déménagement du pôle d'instruction de Rodez à Montpellier. Vous avez également voté le bouclier fiscal pour protéger 5% des Français les plus riches. Je rappellerai à nos auditeurs qu'en 2009, et c'est précis, et je tiens à l'être précise, les 1169 contribuables les plus fortunés se sont partagés 423 millions d'euros, 62% de l'enveloppe totale, en empochant chacun un chèque du Trésor, en moyenne, de 360
Madame
000
Bultel,
euros.
Vous avez demandé que je ne vous coupe pas, mais quand vous aurez fini votre déclaration syndicale, peut-être qu'on pourra débattre, si vous le permettez. C'est une question que je vous pose.
Moi, je pense que les Aveyronnaises et les Aveyronnais ont le droit d'avoir quelques éléments chiffrés sur votre bilan. Permettez-moi de le terminer. Donc, ils ont tous perçu un chèque du Trésor, en moyenne, de 360 000 euros. Moi, je comprends que ça vous mette un petit peu dans l'embarras. Ce n'est pas une déclaration syndicale, vous savez. Je m'occupe essentiellement des Aveyronnaises et des Aveyronnais.
Oui, expliqué très bien.
Monsieur Sancy, juste sur la probable position de députés d'opposition.
Oui. Là, alors bon, sur le bilan, je le disais, ce serait plus intéressant de parler des vraies problématiques. On peut échanger sur les heures supplémentaires défiscalisées que le gouvernement actuel veut supprimer, les aidants familiaux aussi, pour lesquels les familles bénéficient d'aides et qui doivent être supprimées, les droits de succession que la majorité socialiste veut rétablir. Bon, pour ce qui est des sujets que nous avons évoqués, et notamment députés de la majorité ou de l'opposition. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le gouvernement, c'est vrai, au cours de la précédente législature, mais il faut que Madame Bultel sache que l'Assemblée nationale rassemble des députés qui ont tous les mêmes droits. Et qu'un député n'est pas quelqu'un qui a le doigt sur la couture du pantalon et qui est là pour approuver absolument une politique de gouvernement. C'est souvent l'inverse, d'ailleurs, au moment des débats. Mon rôle, qu'est-ce que c'était? Pourquoi j'ai mis beaucoup d'énergie? C'était pour, au sein même de ma majorité d'abord, faire vivre non seulement les valeurs qui sont les nôtres, mais répondre aux problématiques, et notamment aux problématiques rurales, qui sont les nôtres. Et donc il faut d'abord convaincre sa propre majorité, et c'est un travail considérable, et ensuite arriver à faire aboutir dans la loi des vrais résultats, et c'est ce que j'ai fait. La deuxième chose, c'est que la fonction d'un député, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de la politique du gouvernement, c'est le contrôle de la politique du gouvernement, et donc il n'est pas question de renoncer à la pluralité à l'Assemblée nationale. L'argument qui consiste à dire il faut absolument que l'ensemble des pouvoirs institutionnels soient aux mains du Parti socialiste pour pouvoir légiférer, sinon ça ne sert à rien, est absurde. Absurde.
Je rappelle simplement, Monsieur Sancy, je vous rappelle, et je rappelle à nos auditeurs, qu'y compris Monsieur Sarkozy a dit qu'il n'était pas souhaitable d'avoir d'une cohabitation.
Non, mais on ne parle pas de cohabitation. On est sur une élection, sur la première
circonscription
de l'Aveyron.
Je suis désolé de vous rappeler les propos de vos propres amis.
Nos concitoyens vont devoir choisir un représentant.
Vous êtes à une stricte égalité, là, maintenant.
De la circonscription.
Il serait temps d'aborder notre deuxième sujet.
Je voudrais juste dire que, à la Commission des finances, tous les députés ont les mêmes droits. Et croire que des députés de l'opposition n'ont pas de droits est une contre-vérité. D'ailleurs, c'est une grande tradition de la Commission des finances, et nous l'avons accrue encore en donnant des droits supplémentaires à l'opposition, avec des votes qui sont souvent à la majorité des deux tiers, d'ailleurs, qui sont nécessaires, donc qui nécessitent des discussions, et l'opposition, heureusement qu'elle sera là, pour apporter de la pluralité dans les débats.
Je suis ravie d'apprendre que vos collègues qui seront élus de l'UMP voteront donc sans problème le budget qui leur sera proposé.
Ça n'est pas une question de budget. Ça n'est pas une question de voter un budget, c'est une question de débat. Dans un débat, vous avez des amendements, vous avez des combats, et après vous avez le vote du budget final. Entre-temps, il est voté.
Je souhaiterais que nous abordions le deuxième sujet, qui était la rémunération des agriculteurs, l'organisation des filières, la future politique agricole commune, leur retraite. Madame Bultel.
Alors, c'est un grand secteur économique qui doit aujourd'hui relever un triple défi. Un défi de souveraineté agricole, un défi alimentaire, un défi économique et social pour garantir aux agriculteurs le juste revenu de leur travail. Bien que disposant de solides atouts, notre agriculture et sa compétitivité a été affaiblie ces dernières années par une logique de dérégulation, organisée notamment par le gouvernement et les lois qui ont été mises en place.
La France est ainsi passée
du premier au troisième rang des agricultures européennes, et je crois que c'est cela qui est important.
Et pour quelle raison,
à votre avis ? Le projet d'avenir qu'il nous faut défendre et que moi je défendrai, d'abord fondé sur la création de valeur et sur l'emploi. Il veut promouvoir le développement d'agriculture de production diversifiée, durable et performante. Sur notre territoire, nous en avons les moyens. Ces productions doivent répondre à la fois au marché et à l'exportation, en misant sur la qualité, nous savons le faire, sur la valeur ajoutée et la spécificité des produits. Nous devons répondre également aux marchés nationaux et régionaux, en intégrant la demande croissante de nos concitoyens pour les produits locaux, c'est-à-dire les circuits courts.
Je suis sensible.
Écoutez, revenons au concret. La question agricole est évidemment déterminante sur la circonscription. Pour faire rapidement, il y a une question humaine. Ce sont des familles d'agriculteurs qui ont pendant longtemps fait vivre notre circonscription, et ce sont aussi ces familles et cette profession, dans toutes ses déclinaisons d'ailleurs, y compris dans la transformation, qui produisent de la valeur ajoutée, et surtout qui peuplent nos territoires. Donc sur cette dimension humaine, moi je me suis déjà engagé sur trois terrains, j'allais dire. Le premier, c'est la protection sociale agricole, qui est très spécifique. Et on parlera notamment des retraites agricoles sur lesquelles je me suis beaucoup battu, bien sûr. Notamment,
vous nous direz peut-être ce que vous pensez de la loi de Perrault de 2002, qui n'a pas été appliquée.
Notamment la création de la retraite complémentaire obligatoire, que nous avons financée par la solidarité nationale, et les différentes missions que j'ai eues auprès du Premier ministre pour faire des propositions qui ont été adoptées sur les petites retraites agricoles. Mais ça n'est pas encore suffisant. Deuxièmement, l'enseignement technique agricole, sur lequel j'ai une responsabilité particulière. D'ailleurs, c'est moi qui en suis responsable à l'Assemblée nationale. Et j'ai eu beaucoup d'interlocuteurs chez nous, tous les chefs d'établissement et les représentants des organisations professionnelles agricoles, pour le développer. Troisièmement, c'est la politique économique et les structures. Alors là, on va parler de priorités rapidement. Moi, j'ai parlé des mesures de régulation des marchés que nous avons, qui sont absolument nécessaires et que nous avons engagées, parce que évidemment la volatilité des marchés a des conséquences très directes sur les coûts et sur les prix, même si elle se stabilise aujourd'hui, notamment dans la production bovine. Deuxièmement, les questions assurantielles, puisque c'est la succession des différentes crises, non seulement économiques, mais aussi des catastrophes naturelles, qui a souvent complètement démoralisé notre profession, et ensuite l'installation des jeunes agriculteurs. Alors là, j'ai écouté Madame Bultel. Personne n'a le secret, mais surtout reconnaissons à la base le travail fait par les JA. Ce sont les JA qui ont créé tout le travail d'accompagnement.
Les jeunes agriculteurs. Il faut être clair pour nos auditeurs.
Merci de votre traduction. Les jeunes agriculteurs qui ont organisé toute la dynamique de l'installation. Avec un certain nombre d'aides, on a évoqué la question des prêts bonifiés qui risquent de disparaître en 2013. Là-dessus, je veux dire que la Commission européenne a décidé pour la PAC de maintenir l'ensemble des budgets jusqu'à 2020. Reste à savoir ce qu'on en fera, et c'est là-dessus qu'on se battra. Mais le vrai sujet, c'est le problème foncier. Le vrai sujet pour l'installation, c'est pour des jeunes agriculteurs qui sont confrontés à un prix du foncier qui est très élevé. Si on monte sur l'Aubrac, on atteint quasiment les 9-10 000 euros l'hectare. Ça, c'est l'évolution des dernières années dans laquelle tout le monde est responsable. Sûrement les pouvoirs publics, mais aussi les acheteurs et les vendeurs. Et ça, il faut vraiment se mettre autour de la table pour trouver une solution là-dessus. Sinon, personne n'aura de capital pour s'installer.
Madame Bultel, sur la PAC et les problèmes fonciers,
tout à fait.
Si vous voulez bien.
Mais je rejoins tout à fait les problèmes fonciers qui sont très bien compris et visiblement appréhendés par le député Monsieur Sancy. La question que j'ai envie de
mettre
poser
dans votre profession de foi. Vous parlez beaucoup de moi dans votre profession de foi.
La question que je me pose, Monsieur Sancy, c'est quand on comprend à ce point-là les problèmes, comment est-ce qu'on n'y apporte pas de solution ? Parce qu'en fait, le problème, il est là. C'est quand même que durant les 10 dernières années, eh bien, les solutions, vous ne les avez pas trouvées. Parce qu'effectivement, il va falloir aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Il va falloir aider.
Alors, pardonnez-moi, il ne sait pas qu'il va falloir aider les jeunes. Les aides existent. Il faut les maintenir. Le problème n'est pas seulement, et loin de là, les aides financières, les prêts bonifiés. Le problème, c'est on va laisser aux organisations professionnelles agricoles organiser les productions et la transformation, ça leur appartient, on peut les aider, mais sur la question foncière, là on va avoir une question législative.
Bien sûr.
Donc ne dites pas qu'on n'a rien fait sur le reste.
Ce que je dis, Monsieur Sancy, c'est que vous comprenez parfaitement bien les problèmes et que malheureusement, pour les Aveyronnaises et les Aveyronnais, vous ne les avez pas réglés, ces problèmes. Vous n'avez pas tenté de les régler.
Déjà, Madame Bultel, c'est pas mal de les comprendre.
Pardonnez-moi, mais pour l'un comme pour l'autre, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est comment vous alliez aider les jeunes agriculteurs sur le plan de leurs problèmes fonciers et de leurs problèmes d'acquisition, finalement, d'outils de travail.
Je vous en prie.
Monsieur Zancy ne veut plus répondre.
Oh, si, si, je vais répondre.
Effectivement, je comprends que vous soyez un peu dans l'embarras.
Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, mais au-delà de vos déclarations d'intention que vous êtes en train de lire avec,
écoutez,
avec une somme d'écrits, on va essayer d'en sortir. Donc,
tout à fait.
Je vais l'évoquer, mais allez-y.
J'ai effectivement préparé les dossiers parce que je suis quelqu'un qui, et chacun le sait,
oui,
en tout cas,
non,
ceux
mais
qui travaillent avec moi,
voilà,
préparent mes dossiers.
Vous êtes venu faire
je n'arrive jamais, pas du tout.
Mais
J'arrive toujours quelque part en ayant préparé les dossiers. Mmh. C'est, à mon avis, le moindre des respects que l'on doit aux auditeurs. Aujourd'hui, effectivement, pardonnez-moi, je ne suis pas députée depuis 10 ans. François Hollande arrive. Je serai, je l'espère bien, très rapidement reçue avec l'ensemble des organisations syndicales par le ministre de l'Agriculture, Monsieur Stéphane Le Foll, et nous verrons et nous ouvrirons des chantiers. Et je puis vous garantir que, en fonction de la parfaite compréhension des problématiques aujourd'hui, notamment avec des gens comme Germinal Perrault, nous irons au fond des dossiers et nous mettrons en œuvre, dans la plus grande concertation, toutes les mesures indispensables. Il y a des mesures de pourquoi les terrains agricoles sont si chers. Pourquoi sont-ils si chers ?
Je vous écoute.
Mais effectivement, ils sont si chers et vous le connaissez, vous en êtes directement responsable.
Je vous écoute.
Les terrains, alors c'est extraordinaire que Monsieur Sancy, député de la première circonscription de l'Aveyron. Ah oui, j'en ai une petite idée. Les terrains agricoles sont si chers parce que effectivement on a continué à donner à ne pas réguler les primes données et la répartition des primes de la politique agricole commune entre les exploitations et les exploitations d'élevage et les céréaliers. On a donc valorisé les terres et surtout contraint un petit peu mécaniquement les exploitations à s'agrandir. Voilà. Donc à constituer d'énormes exploitations au lieu de maintenir de petites exploitations. C'est la raison pour laquelle le foncier a augmenté.
Alors je suis heureux d'apprendre que le Nord Aveyron est une région céréalière et connue pour
pas
ça.
Pas du tout, justement. C'est précisément la différence entre l'attribution des primes, la différence entre ce qu'on attribue aux éleveurs et la différence entre ce qu'on attribue aux céréaliers. Les primes, elles ne sont pas équitables. Et c'est là qu'il va falloir remettre de l'ordre.
Voilà, j'espère que les...
Et elles sont données à la surface. Vous le savez quand même.
J'espère que les agriculteurs nous écoutent.
Oui, moi aussi.
Voilà, la question de la pression foncière sur les céréaliers, notamment là où ils sont le plus importants, que ce soit en région parisienne, en Haute-Marne, n'a pas grand-chose à voir avec le versement des primes, bien entendu.
Bien sûr que si.
Je rappelle par ailleurs que pour ce qui nous concerne, la question des primes et de leur déliaison avec la production avait été accordée par Lionel Jospin à l'Europe d'abord. Alors je sais que c'était un point très difficile. Mais aujourd'hui, la pression foncière, elle a aussi été due à une certaine époque, à une production qui produisait du revenu, malheureusement ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et qui a poussé à un certain commerce des terres à une certaine époque qui ont pris beaucoup de valeur. Et là, il faut savoir comment on arrive à réguler et comment on fait pour réguler la pression foncière. Évidemment, c'est par la loi, comme on le fait sur n'importe quel foncier, on est obligé de ralentir la pression.
Bien, je pense que nous pouvons passer à notre troisième sujet, qui est la création d'emplois. Alors la création d'emplois, on a vu les propositions, tout le monde connaît les propositions du président de la République, 150 000 emplois à venir, le contrat de génération. On doit aussi parler des possibilités de dynamisation des entreprises, ça crée de l'emploi. Puisque c'était M. Sancy qui parlait en dernier, Mme Bultel.
Alors, moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur quelques mesures qui doivent être prises pour assurer plus de justice à l'égard du monde agricole. C'est notamment en ce qui concerne les retraites, parce qu'on n'en a pas parlé, et c'est pourtant quelque chose
dramatique
aujourd'hui. Donc, il va falloir... Il y a des mesures qui avaient été prises par la loi 2002, la loi Perrault. Vous le savez, elles n'ont pas été appliquées, ce qui a conduit les agriculteurs aujourd'hui à avoir des retraites extrêmement faibles. Et,
c'est totalement faux.
Tout à fait. Mais écoutez,
C'est peut-être ce que vous avez écrit le Parti socialiste, mais
c'est pas faux.
Mais
je pense
c'est
que,
faux.
En tout cas, je pense que les agriculteurs apprécieront de savoir qu'ils n'ont pas de problème de retraite.
Non, j'ai
vous,
pas du tout dit ça.
Écoutez, je suis désolée. Il y avait des lois qui ont été qui n'ont pas été appliquées, pas suffisamment.
Mais laquelle
la loi de 2002, Perrault.
La loi de 2002, qui n'est pas une loi Perrault, a été appliquée. Elle a été appliquée. C'est la retraite complémentaire obligatoire. D'ailleurs, nous l'avons votée à l'unanimité. Nous l'avons
Donc les
financer.
Agriculteurs n'ont pas de problème.
Si,
de
les
problème
agriculteurs
de
ont beaucoup de problèmes. Nous avons solutionné un premier problème sur les retraites agricoles, c'est de financer des retraites pour les plus âgés d'entre eux qui, malheureusement, n'avaient pas forcément cotisé à la retraite complémentaire obligatoire, ce qui faisait des retraites très faibles. Le deuxième point, c'est la revalorisation des petites retraites, notamment des pensions de réversion pour les veuves. Et ça, bien sûr que nous l'avons fait, et ça n'est jamais assez. Parallèlement, nous avons essayé de les faire aussi on fait bénéficier de ce qu'on appelle le minimum vieillesse, puisque beaucoup de retraites sont étaient inférieures au minimum vieillesse, pour l'augmenter de 25%.
Voilà.
Alors, je souhaite.
C'est quelque chose que vous n'avez pas fait. Non, mais c'est très important.
Bon,
hein. Non, c'est très important de savoir qu'on prendra en considération effectivement cette problématique parce que.
Maintenant, si vous voulez revaloriser les petites retraites des personnes vulnérables, globalement, il ne faut pas revenir sur la réforme des retraites. Le vrai problème, il est là. Soit vous permettez aux gens de travailler moins aujourd'hui, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire augmenter les cotisations, et vous n'aurez pas assez d'argent pour augmenter les petites retraites. Moi, l'augmentation des petites retraites des personnes vulnérables, elle n'a qu'une seule chance de succès, c'est à la condition qu'on reste sur la réforme des retraites telle qu'on l'a faite.
Je pense qu'on va revenir sur un
seul chiffre. Ça n'était pas le sujet prévu. Je me permets d'intervenir, aussi bien pour l'un comme pour l'autre. Nous avions proposé une heure. Madame Bultel a souhaité ramener le débat à une demi-heure, puis à trois quarts d'heure. Donc, il nous faut passer au sujet suivant, qui était la création.
Je suis content que le débat soit lancé, en tout cas.
Qui était la création d'emplois, je vous le rappelle. Madame Bultel.
Effectivement, nous allons, François Hollande, dans ses engagements, a proposé le contrat de génération. Moi, je veux revenir sur ce contrat de génération, parce qu'aujourd'hui, il va être mis en place et il a une différence tout à fait notable avec toutes les mesures qui ont été prises avant. Il propose de tuiler la possibilité d'emploi et de formation entre un senior. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, trois seniors sur cinq sortent de l'emploi avant la retraite. Et un jeune sur quatre est demandeur d'emploi. Je pense que ce sont des chiffres qui doivent nous parler et on offre une solution intéressante. Pourquoi ? Parce que le contrat de génération est basé sur des exonérations de charges pour le senior en ce qui concerne les exonérations, les cotisations chômage et l'exonération sociale en ce qui concerne le jeune. Mais surtout, il propose aux jeunes un véritable contrat, un CDI. Et vous savez, tous les jeunes que vous allez rencontrer, Monsieur Sancy, quand vous irez au devant de la population, et tous ceux que moi j'ai rencontrés, ils ont besoin d'un CDI pour obtenir un emprunt, pour obtenir un logement, pour acheter une voiture, pour vraiment rentrer de plein pied dans la vie. Et c'est là où le contrat de génération porte tous ses fruits, parce que le jeune embauché en contrat de génération aura un CDI.
Alors, j'entends que le contrat génération, c'est la politique de l'emploi que va proposer François Hollande et que va proposer Jean-Marc Ayrault. Non, écoutez, franchement, c'est pas sérieux. Les problèmes d'emploi que nous avons en France et puis aussi dans le Nord-Aveyron sont beaucoup plus larges et sont dus à ce qu'on appelle des distorsions de concurrence, notamment avec les autres pays européens et puis également des pays qu'on appelle les pays émergents.
Qu'est-ce que vous appelez distorsion de concurrence?
Alors, je vais vous expliquer. Une distorsion de concurrence, c'est quand vous produisez en France avec des coûts, notamment des coûts qui pèsent sur le travail directement. Et uniquement sur le travail.
Vous êtes en train de reprocher aux salariés français de gagner un petit peu plus d'argent qu'au Pakistan?
Je reproche, pas du tout, bien au contraire, je vais vous expliquer. Non, là, c'est des procès d'intention.
Pas du tout, c'est pas une caricature. Vous savez que 95% des layoles sont fabriqués au Pakistan.
Oui, bien sûr. Voilà. Donc vous avez des pays qui font ce qu'on appelle du dumping, c'est-à-dire qu'ils produisent à bas coût car ils n'ont pas de coûts sociaux, ils n'ont pas de coûts environnementaux que nous avons, nous. La question, c'est que comment est-ce qu'on fait pour financer ces coûts sociaux et ces coûts environnementaux aussi, nous? Soit on le fait peser uniquement sur le travail, soit on baisse les charges sur le travail. Et nos entreprises et nos PME aveyronnaises ont besoin de ça. ont besoin de baisser les charges.
Que ne l'avez-vous pas fait pendant 10 ans.
Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que vous avez supprimé, vous avez promis de supprimer.
Monsieur Sancy,
alors laissez-moi finir.
Je suis chef d'entreprise depuis 25 ans. Je puis vous dire que, oui, bien sûr, mais c'est quand même la réalité. Non, je vais pas.
Tout à l'heure, vous êtes tuteur, vous avez expliqué que vous ne connaissez pas l'agriculture, mais que vous prendrez le temps de l'apprendre.
J'ai pas du tout expliqué que je connaissais pas l'agriculture, monsieur Sancy.
Soyez aussi modeste, s'il vous plaît.
Non, c'est pas une question de modestie, monsieur Sancy. Je pense que vous avez eu 10 ans. Vous avez eu 10
donc,
ans
cette baisse des
pour
charges,
mettre en œuvre les mesures que vous pensez préconiser charges, aujourd'hui dans l'opposition.
Oui. Nous l'avons voté. J'ai fait passer personnellement un certain nombre d'amendements, notamment
ça
pour exonérer les charges.
Ça ne s'est pas vu sur les cotisations. Je vous rassure, les chefs d'entreprise apprécieront, en tout cas tous ceux qui font leur
revitalisation rurale.
Leur cotisation
et
sociale.
Ça existe exactement de la même façon et ils le savent. Le deuxième point, c'est ce que nous avons souhaité.
Les chefs d'entreprise ruthénois
qui est très important, c'est de financer
que vous pensez avoir fait une loi
sociale,
qu'ils n'ont jamais vue.
De financer la protection sociale également par une TVA sur les importations. Comment faire ça? On diminue les charges sur le travail et on finance une partie de la protection sociale par une faible augmentation de la TVA. C'est quelque... Alors, quand je dis faible augmentation de la TVA, ça aboutit à 0,4%. Donc, c'est pour un produit de 100 euros, il passe à 104 euros. Et les produits importés, à ce moment-là, deviennent plus chers. C'est une condition indispensable qu'ont fait les Allemands, qu'ont fait par exemple les Danois, et c'est comme ça qu'ils sont devenus leaders européens sur toutes les filières du bois et de l'ameublement qui sont si importantes chez nous. Si on ne baisse pas les charges sur le travail, on ne peut pas embaucher. D'autre part, il y a la question des 35 heures. Et moi, je vous le dis, si on ne garde pas les heures supplémentaires défiscalisées, on ne pourra pas maintenir les augmentations de salaire qui correspondent pour un salarié, par exemple,
que
du transport.
Mme Bultel s'exprime, parce que vous avez 3 minutes d'avance.
À des augmentations de 3 000 euros par an.
Alors, moi, je crois très fort au contrat génération, parce que je crois très fort à la relance. Parce que je pense que nous ne sortirons pas de la crise dans laquelle... vous nous avez projeté, vous et l'ensemble des gens qui pensent que la spéculation vaut mieux que le travail. Ici,
bon,
les chefs d'entreprise.
Je viens de vous expliquer le contraire. Hein.
Ah ben écoutez, c'est ce que vous avez préconisé, c'est ce que vous avez favorisé tout au long des lois, tout au long des niches fiscales que vous avez organisées, que vous avez votées. C'est votre travail depuis 10 ans, Monsieur Sancy. La situation actuelle du pays est le fruit de votre travail à l'Assemblée nationale.
Et vous nous expliquez que c'est de la spéculation, les niches fiscales.
Depuis 10 ans, vous avez organisé l'économie. Vous allez faire croire à qui que la crise économique est une catastrophe naturelle, tout de même. Un petit peu de respect pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc moi, je dis qu'il faut redonner confiance aux jeunes dans leur propre avenir. Il faut leur donner un CDI, parce qu'il faut leur permettre de rentrer de plein
Bien
pied
sûr,
dans la vie active.
Évidemment.
Et c'est ça le problème. Mais alors, de grâce, ne dites pas à nos auditeurs que les charges sociales sur le travail ont baissé, alors que chacun des chefs d'entreprise qui nous écoutent, et je l'espère. Mais
écoutez, vous
voulez
les augmenter.
Et qui nous écoutent savent très
est-ce
bien
que, vous les augmenter
que durant
ou non
ces 10 dernières années, elles n'ont absolument pas baissé. Absolument pas baissé.
Nous avons...
Et je tiens à vous dire autre chose.
Est-ce
sur
que
les
vous
35
ne voulez pas
heures,
supprimer la mesure que nous avons votée sur la suppression des charges de payant la branche famille de la sécurité sociale? Est-ce que vous ne voulez pas la supprimer?
Monsieur Sancy, est-ce que vous n'avez pas pendant 10 ans, mais répondez également, est-ce que vous n'avez pas pendant 10 ans voté les lois qui ont mis notre pays dans l'état
mais ça,
où il
trop
est
général,
aujourd'hui.
Madame Bultel.
Non, c'est pas trop général.
Je vous ai posé une
chacun,
question précise.
Chacun, et moi aussi, je vous ai posé une question précise.
Mais
comment pouvez-vous affirmer avoir voté une quelconque loi qui ait permis sur une feuille d'URSSAF que chaque chef d'entreprise sait qu'il doit payer absolument tous les 15 du mois? Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un va vous croire quand vous dites que vous avez voté une loi qui
madame
baisse
Bultel,
ces taux-là?
Est-ce que vous voulez
il faut être un peu raisonnable.
Est-ce que vous voulez augmenter le RSI?
Monsieur Sancy, moi, je vous répondrai lorsque j'aurai à tirer mon bilan, lorsque j'aurai été élu, et je l'espère, député, et lorsque je pourrai...
Les électeurs ont à se décider pour une politique d'avenir. Est-ce que
tout
vous
à
voulez
fait.
Augmenter
et moi, je demande aux électeurs,
les cotisations
aujourd'hui
vieillesse et les cotisations sur le régime social des indépendants, oui ou non?
Monsieur Sancy, je crois que les auditeurs qui nous écoutent ont besoin de deux choses. Un, de voir clair dans votre bilan. Et deux, d'avoir une vision d'avenir. Moi, je leur propose une vision d'avenir. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est de leur dire que, aujourd'hui, Le contrat de génération me paraît une très bonne solution pour permettre à nos jeunes, dont je rappelle que 1 sur 4 est au chômage aujourd'hui, et que, y compris en Aveyron, le chômage s'aggrave, qu'il faut qu'on s'empare de ce dispositif du contrat de génération pour permettre à nos jeunes d'avoir un CDI. Est-ce que vous avez une idée de ce que serait capable de faire un jeune pour avoir un CDI aujourd'hui, c'est-à-dire pour pouvoir rentrer de plein pied dans la vie? Est-ce que vous avez une idée de ce que donnerait un senior pour n'avoir pas la sensation d'être toujours mis un peu à l'écart à partir de 50, 52 ans, 53 ans dans nos entreprises? Est-ce que vous avez une idée de cela? Moi, c'est cela que je vous demande.
À votre avis. Vous savez, je me suis battu pendant 10 ans, ben, j'imagine. Mais vous savez, je vous conseille d'éviter une fois de plus le dénigrement personnel, Madame Bulletet. Ne me soupçonnez pas de n'avoir aucune conscience de la difficulté, de la souffrance de mes concitoyens. Ça fait 10 ans que je m'engage au service de tous, et particulièrement des plus en difficulté. On peut ne pas être d'accord sur les solutions, j'en conviens, mais qu'on soit clair. Moi, j'ai toujours indiqué que pour favoriser l'emploi, il fallait baisser le coût du travail pour que cette baisse se traduise en salaire pour les salariés et en capacité d'emploi pour les entreprises.
Vous voulez baisser le salaire sur des salariés?
Non, baisser le coût du travail pour augmenter le salaire des différents salariés.
Pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant 10 ans?
Mais attendez, nous avons voté cette fameuse loi que vous avez juré de supprimer.
Voilà. Pardonnez-moi, mais je pense qu'on est là un petit peu en boucle sur la création d'emplois. Il est donc temps d'aborder le dernier sujet avant les conclusions. Et le dernier sujet, ben, c'est la dette nationale. Faut-il la résorber et comment Monsieur Sancy, Madame Bulletel, parce que Monsieur Sancy, vous avez 2 minutes d'avance.
D'accord. Alors, bien évidemment, l'enjeu majeur de la baisse et de la réduction de la dette s'impose à tous. Moi, je voudrais simplement dire que M. Fillon, lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, avait dit « le pays est en faillite ». Durant 10 ans, durant 5 ans d'ailleurs, nous avons aggravé la dette de 600 milliards d'euros en 5 ans pour arriver aujourd'hui à plus de 1 800 milliards d'euros. Alors, nous prenons effectivement aujourd'hui la mesure de l'enjeu qui nous est imposé, mais c'est l'héritage que vous nous laissez, Monsieur Sancy, vous et vos amis, vous et vos lois si pertinentes et si efficaces. Bien entendu, nous allons avoir comme devoir et comme mission de redresser la dette, mais en même temps de faire de la justice sociale, de faire de la justice territoriale, de redonner un peu de justice fiscale, tout ce qu'attendent nos concitoyens.
Alors, moi j'ai fixé effectivement la réduction de la dette comme depuis le début de ma mandature, comme une priorité. C'est évidemment indispensable pour nos enfants. Ce que nous ne réalisons pas aujourd'hui, c'est eux qui le paieront demain, exactement comme on le voit en Espagne, au Portugal, aujourd'hui. J'ai été très très choqué par ce que j'ai entendu de Martine Aubry, indiquant que au fond, il y avait des marges énormes de fiscalité qu'on va prendre sur les Français. Sur les sujets que j'évoquais tout à l'heure, d'ailleurs, au détriment de l'emploi, à mon avis, et en disant c'est plus important que la réduction de la dépense publique. Ça va à l'encontre de tout ce que tout le monde pense, non seulement en
les
France,
gens qui ont,
mais en Europe,
qui président au redressement de la Grèce,
et dans le monde. C'est une. D'ailleurs, je crois que ça choque énormément de nos concitoyens. Évidemment, la dette n'est pas due à la politique qui a été menée pendant 5 ans.
Elle est due à quoi?
Évidemment, elle est due à une crise mondiale. Et tous les pays de l'OCDE ont souffert
de cette situation. On s'en sort beaucoup plus mal que nos
voisins,
quand même, M. Sancy.
Par contre, la France s'en sort beaucoup mieux. Et quand je dis qu'elle s'en sort beaucoup
mieux, nos concitoyens apprécieront.
C'est que, oui, mais enfin, il y a des chiffres quand même.
Oui, oui, effectivement, ils existent, ces chiffres.
Non seulement en n'augmentant pas les impôts, en n'augmentant pas les cotisations et les taxes, ça a été, je crois, une des clés pour maintenir un taux de croissance et qui est un des meilleurs d'Europe l'année dernière. Et enfin, nous avons stabilisé la dépense publique, ce qui est très difficile. Personne ne comprend, Madame Bulletel, comment vous pouvez recruter des dizaines de milliers de fonctionnaires supplémentaires qui ne créent pas de richesse, bien sûr. Les fonctionnaires travaillent et permettent de créer de la valeur ajoutée, mais l'investissement, ça n'est pas de la création de richesse, et c'est la paupérisation de tous les autres. Et donc, c'est bien sûr un objectif qui est majeur. Je vais prendre un exemple qui est celui de l'éducation nationale, puisqu'on en a beaucoup parlé, qu'on a, Bultel, je crois, en a beaucoup parlé aussi. Dans l'éducation nationale, si nous avons appliqué le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, c'est tout simplement parce que le nombre d'élèves a baissé et le taux d'encadrement est resté exactement le même.
C'est faux, on est les derniers. Alors là, vous n'allez pas me refaire et ni refaire à nos auditeurs le débat entre M. Sarkozy et François Hollande. Nous sommes les derniers de la classe dans l'OCDE pour l'encadrement des enfants en primaire. Les derniers.
Non, on n'est pas les derniers dans le primaire.
Si.
Et ensuite, il y a des choix qui ont été faits, y compris par la gauche, mais là, on rentrerait dans le détail.
L'objet était là-dedans.
Voilà. Bon.
C'est on rentrerait dans le détail. Monsieur Sancy veut y venir.
Je parle d'un taux d'encadrement, global, et y compris dans le primaire, il n'a pas bougé depuis 2007. Ce que je veux dire.
Monsieur Sancy.
Ce que je veux dire, c'est que. Il n'est pas pensable aujourd'hui de distribuer autant de pochettes surprises sans dire comment on va les financer. Et on revient à la discussion d'ailleurs qui est transversale. Comment est-ce qu'on va faire ? Évidemment que ça va être par une augmentation massive des impôts et des taxes. Et ça pour le Nord-Aveyron, on ne va pas me faire croire que ça n'a pas des conséquences locales. Évidemment.
Alors, M. Sancy, vous nous donnez... Alors, vous avez un bilan qui est quand même, d'un point de vue de la dette... Vous mettez tout sur le dos de la crise. C'est votre problème. Vous avez tellement mal géré cette crise que, avec un pays en faillite, Monsieur Fillon avait dit ça, hein, c'est pas moi qui l'invente, vous avez mis 600 milliards d'euros de dette. Et vous avez sacrifié sur l'autel de la dette que vous avez vous-même organisée.
Comment va faire ? Il y a quelque chose que les gens doivent savoir quand même.
Alors moi, je vais repartir de vos solutions.
Non, mais c'est pas parce qu'il y a une dette aujourd'hui et vous pouvez l'imputer à qui vous voulez. Enfin, de là à dire, il n'y a rien à faire.
Ou ah, je ne dis pas ça du tout.
À part augmenter les impôts, les taxes et les cotisations. Et je répète, voilà, on a beaucoup d'artisans chez nous. Donc le régime social des
Écoutez,
indépendants,
monsieur,
je vous repose la question.
Ça fait 25 ans que je suis inscrite à la Chambre des métiers, donc artisan moi-même. Pardonnez-moi, mais j'ai une petite idée de ce que vivent nos amis, chefs d'entreprise
aussi,
et artisans.
Rassurez-vous, j'ai une petite idée. Mais j'ai une petite
vous devez
idée
avoir une très petite
de l'augmentation
idée,
de l'augmentation que vous allez soutenir et pratiquer. La vraie question, c'est
on
que...
On ne résorbera la dette
est-ce
que par
qu'on
la
dette
relance.
Dites-moi.
Mais bien évidemment, par la relance. Celle que vous n'avez pas su
comment
organiser.
Comment est-ce que vous faites la relance ?
Vous vous êtes contenté
est-ce que vous faites la relance en recrutant des fonctionnaires,
d'imposer... On organise une relance en redressant un pays, en remettant les gens au travail. Et c'est comme ça. Et vous
mais ça, c'est
savez
des généralités.
Très bien.
Est-ce
pas
que vous pensez
tout,
remettre les
tout,
gens
le
au travail
mais bien
Est-ce
sûr
que vous pensez remettre les gens au
travail
les 35 heures en augmentant les taxes, les impôts et les cotisations
Vous avez parlé tout à l'heure...
Monsieur Sancy, si vous voulez avoir une conclusion qui ne sera pas la dernière, il serait souhaitable que vous laissiez parler Mme Bultel.
Allons-y.
Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est bien sûr qu'on va remettre les gens au travail. Et bien sûr que c'est ça qu'ils veulent, les Françaises et les Français, les Aveyronaises et les Aveyronais avec eux. Mais moi, je peux vous dire, vous me parlez des 35 heures. Mais allez demander à de nombreuses femmes qui ont des emplois à 8 heures par semaine si elles ne voudraient pas faire au moins 35
heures.
Je pense que dans les milieux des ADMR que vous connaissez, qui sont en souffrance aujourd'hui, je pense que non seulement il faut redonner du travail aux Françaises et aux Français, aux Aveyronaises et aux Aveyronais, mais il faut aussi leur donner de la dignité,
vous savez,
un travail digne.
L'emploi existe sur le Nord-Aveyron.
Si vos solutions, monsieur Sancy, d'ailleurs si vous aviez eu des solutions durant les 10 années que vous avez passées brillamment à l'Assemblée nationale, certainement on en aurait entendu parler. Or, nous n'en avons pas entendu parler, pas plus en Aveyron qu'en France d'ailleurs. Vous n'avez fait que creuser la dette. Vous avez mis sur le marché du travail 1 million de chômeurs de plus. C'est votre bilan, monsieur Sancy. Alors ne trouvez pas aujourd'hui des solutions qui n'en sont pas, puisque de toute façon, avec 10 années pour les mettre en œuvre, vous ne l'avez pas fait. Vous, vos solutions, c'est supprimer les fonctionnaires. C'est supprimer les fonctionnaires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire mettre notre taux d'encadrement au niveau du classement de l'OCDE, nous sommes les derniers.
Pas du tout.
Les derniers. Écoutez, il y a eu un débat là-dessus et je pense que, franchement, nos auditeurs l'entendront entre M. Sarkozy et François Hollande. Et c'est François Hollande qui avait raison.
Nous avons le nombre de fonctionnaires par habitant qui est un des d'ailleurs, qui est le plus élevé d'Europe.
Monsieur Sancy, les gens veulent du travail, de l'emploi. Nous allons aider les PME. Vous avez fait toutes les lois que vous avez faites, notamment pour le crédit impôt recherche. Aucune de nos petites entreprises n'en ont vu la couleur. Aujourd'hui, 80% de notre tissu économique, ce sont des PME. Il faut les aider, elles. Et c'est pas en faisant des lois qui favorise les grands groupes et qui pénalise les petites entreprises que vous allez y arriver. Parce qu'ici, les gens, ils savent bien combien est le taux d'imposition pour sur les bénéfices pour une entreprise. Et ils savent bien que les grands groupes, aujourd'hui, bénéficient d'exonérations, de niches fiscales diverses et variées que vous avez mis en place. Bien évidemment, il y a des marges de manœuvre sur la fiscalité. Pas celle du français des classes moyennes, celle des grandes entreprises, des grands groupes.
Madame Multen, dans la mesure où vous avez souhaité qu'on limite notre débat à un quart d'heure. Monsieur Sancy a 2 minutes, pas une de plus, pour sa conclusion. Et vous aurez pour la dernière conclusion, Madame Multel, 2 minutes et demie.
Écoutez, je crois que on voit bien, même si le débat est un petit peu difficile dans l'échange et dans la précision, que nous avons deux visions qui s'affrontent. Je considère que aujourd'hui les Aveyronnais ont à choisir entre une députée qui est représentante d'une branche assez dure du Parti Socialiste associée au Front de Gauche. J'ai déjà évoqué la question du sectarisme idéologique. Je ne me suis pas permis d'avoir des jugements personnels, mais notamment le combat de Madame Bultel contre l'enseignement catholique, par exemple, à Rodez, ou contre les subventions qu'on peut apporter aux écoles libres. Et puis, d'un autre côté, tout simplement, un député qui, évidemment, s'est engagé, mais qui représente ce que j'ai appelé les valeurs de l'union de la droite et du centre, et qui sont très loin de ce sectarisme idéologique. Je crois que à partir de là, nous avons deux programmes qui se confrontent. Le mien, qui est porté évidemment par moi-même et par ma majorité, répond à une volonté de ne pas augmenter les impôts, les taxes et les cotisations, répond à une volonté de répondre aux vraies problématiques du territoire sur la petite enfance, sur la question du financement de la dépendance. Là encore, il faudra faire beaucoup d'efforts sur la question de la médecine de proximité. Et pour ça, il faudra travailler avec tout le monde et vraiment sans sectarisme.
Madame Hultel, votre conclusion.
Alors, moi, je voudrais dire que effectivement, il y a un point où je suis d'accord avec vous, Monsieur Sancy. Il y a vraiment deux visions de notre avenir et de notre société qui s'opposent. Je vous rappelle que vous n'avez pas présenté de programme aujourd'hui. Vous n'avez pas de majorité non plus. Avec François Hollande, qui m'apporte son soutien, vous le savez, et qui a besoin de députés pour lui donner une majorité solide pour le redressement de la France. Moi, c'est à ça que je m'engage. Je veux que l'Aveyron prenne toute sa part au redressement de la France. Et je sais que c'est à travers le programme et les 60 engagements qui ont été d'ailleurs approuvés par une majorité de Français aujourd'hui que nous allons redresser la France, tous ensemble. Pas du tout avec sectarisme. Et très franchement, vos derniers propos, notamment au sujet de l'éducation, Monsieur Sancy, c'est vous qui avez fait preuve de sectarisme.
Ah bon ?
En stigmatisant une action à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui, vous le savez très bien, en ce qui concerne l'éducation. Sachez, et les Aveyronnaises, savent très bien que l'éducation est depuis toujours, une de mes priorités dans mon engagement. Et les organisations syndicales et toutes les écoles le savent très bien également. Donc c'est sans sectarisme, mais avec la volonté chevillée au corps d'emmener l'Aveyron dans le redressement de la France, d'emmener les Aveyronnais dans des solutions crédibles, réalistes, justes, justes pour tous, justes socialement, justes fiscalement, justes au niveau du territoire. C'est là qu'on veut aller, ensemble, avec tous les Aveyronnais.
C'est votre conclusion. Et bien donc, ainsi se termine le débat
beaucoup
entre Yves Sancy, qui est le candidat de la première circonscription de l'Aveyron à l'élection législative pour l'Union pour un mouvement populaire, et Monique Bultel-Hermand, qui est candidate du Parti Socialiste sur l'élection législative de cette même première circonscription. Je vous remercie l'un et l'autre.
Merci.
Merci.
CFM sur le Grand Rodez, 107.9. CFM.